VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Gabon, le leader de l'opposition gabonaise, Jean Ping, continue de contester la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Monsieur Ping se considère comme le président élu et il privilégie la voie judiciaire pour obtenir satisfaction de ce qu'il estime être ses droits. Lors d'une visite aujourd'hui à VOA Afrique, Jean Ping s'explique au micro de Nathalie Barge.
Nous avons recours à plusieurs fronts. Il y a le front judiciaire, il y en a d'autres. Le front judiciaire, nous savons que la Cour est une tour de Pise qui pense toujours dans la même direction et nous savons presque d'avance ce que la Cour va dire. Mais nous avons engagé ce recours d'abord parce que nous voulons que tout le monde sache ce qui se passe et nous pensons aussi que bientôt nous allons avoir le rapport de la Commission de l'Union européenne. Donc en appui à ce rapport, nous pensons que c'est bon de continuer ce que nous appelons parfois le harcèlement judiciaire. La Cour doit nous communiquer les résultats réels et nous avons 15 jours pour faire appel. Nous exploitons ça.
Jean Ping, le leader de l'opposition gabonaise, actuellement en visite aux États-Unis. RDC, le président congolais Joseph Kabila a déclaré aujourd'hui que l'accord politique issu du dialogue national demeure la seule feuille de route pour résoudre la crise liée au report de la présidentielle. M. Kabila a promis de désigner incessamment un nouveau Premier ministre dans les rangs de l'opposition ayant pris part au dialogue national après la démission lundi de l'ancien chef de gouvernement Augustin Matata Ponyo dans le cadre de l'accord. Le nouveau gouvernement aura pour mission prioritaire d'organiser les élections, a souligné le président Kabila en ajoutant que son avenir politique est réglé par la constitution congolaise. On écoute le président Joseph Kabila.
Les Congolais viennent de démontrer que, placés dans des conditions de libre exercice de leur droit à l'autodétermination, ils sont capables de régler en toute responsabilité leurs divergences. Ceci m'offre l'occasion de dénoncer à nouveau toute ingérence dans les affaires internes de notre pays, qui a droit, comme tout État membre des Nations Unies, au respect de sa souveraineté et de son indépendance politique. Et notre pays n'entend pas transiger là-dessus. Mon vœu le plus ardent est que, conformément à l'article 24 de l'accord politique, ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas participé à sa conclusion puissent y adhérer en le signant. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution.
Le président congolais Joseph Kabila. La communauté internationale de nouveau au chevet de la Centrafrique jeudi à Bruxelles pour financer le retour d'une paix fragile dans un pays exsangue qui ne figure plus parmi les priorités diplomatiques malgré sa position stratégique au cœur du continent africain. Les Centrafricains ont pu élire dans un calme relatif en début d'année un nouveau président, Faustin Archange Touadéra, parti pour Bruxelles dès dimanche. Mais le chef de l'État centrafricain se trouve à la tête d'un pays sans armée nationale ni administration et dont une large partie du territoire se trouve sous le contrôle de groupes armés. La FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, a publié aujourd'hui un rapport volumineux sur la crise au Burundi. Selon le document, le bras de fer entre les contestataires et le régime du président Pierre Nkurunziza a fait à ce jour plus de 1 000 morts, 8 000 personnes détenues pour des motifs politiques, 300 à 800 disparus. Et il a poussé plus de 300 000 personnes à l'exil. Les abus sont essentiellement l'œuvre des forces du régime et du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, selon l'ONG de défense des droits humains, qui mentionne notamment le rôle crucial des Imbonera Kure, l'organisation de jeunesse et milices pro-pouvoir. Mais le rapport relève aussi des exactions commises par des groupes armés de l'opposition, notamment les forces républicaines du Burundi, Forebu, et la résistance pour un État de droit.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À Zouéra, dans le nord de la Mauritanie, procès en appel depuis hier des militants anti-esclavagistes mauritaniens condamnés à des peines de prison, notamment pour usage de la violence. Un procès marqué par une sécurité renforcée, selon la défense et des témoins. Nani Talani.
D'après un des avocats de la défense, Maître Baoul Doumbarek, le procès a commencé en présence de tous les accusés que la cour a interrogés en début de séance. Puis les avocats ont soulevé des exceptions de procédure jugées suffisantes pour annuler le dossier. Ils ont insisté sur le flagrant délit pour lequel leurs clients sont jugés, qu'ils contestent, et les tortures auxquelles les prisonniers ont été soumis. La cour devrait se prononcer sur ces questions de procédure. Pendant ce temps à Paris, l'ONG l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, a déposé hier une plainte visant de hauts responsables mauritaniens accusés de torture à l'encontre de ces militants anti-esclavagistes qui sont au nombre de 13. Ces derniers sont accusés de rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. Ils avaient été arrêtés en juin-juillet pour leur implication présumée dans les violences à Ksar, un quartier dans le centre de Nouakchott, dont le déplacement forcé par les autorités le 29 juin avait provoqué des heurts entre des manifestants en colère et la police. Une dizaine de policiers avaient été blessés, selon les autorités. Ils sont jugés en même temps que sept habitants de ce bidonville.
Politique aux États-Unis maintenant, réaction fort mitigée après les deux sélections faites jusqu'à présent par le président élu Donald Trump pour deux postes clés à la Maison-Blanche. Si la nomination du chef du Parti républicain Ryan Priebus au secrétariat général de la présidence est plutôt conventionnelle, celle de Steve Bannon au poste de stratège en chef a valu des critiques au milliardaire républicain. M. Bannon dirigeait avant de se joindre à sa campagne présidentielle le site Breitbart, une plateforme de l'extrême droite où des vues pro-nationalisme blanc et antisémite étaient souvent exprimées. Des milliers de manifestants continuent de protester dans plusieurs grandes villes américaines contre l'élection surprise de Donald Trump, lequel a souligné que ces protestataires ne le connaissent pas vraiment. Que pense le président Barack Obama de l'élection de Donald Trump qui a nettement battu la candidate démocrate Hillary Clinton, soutenue à fond par l'actuel chef de l'exécutif? Un début de réponse dans la première conférence de presse de Barack Obama à la Maison-Blanche après le scrutin lundi. Compte rendu de Jean-Roger Bion.
Le président a dit que son successeur se rendra très vite compte de la dure réalité quand la bonne rhétorique utilisée pendant la campagne se heurtera aux défis qu'il devra relever. Monsieur Obama, qui a reçu jeudi dernier à la Maison-Blanche Donald Trump, croit avoir découvert une chose que beaucoup ne soupçonnent pas.
I don't think he is ideological.
Je ne crois pas qu'il est un idéologue. Je crois qu'au bout du compte, c'est un pragmatique.
That can serve him well.
Selon le président Obama, cela peut être utile à Monsieur Trump à partir du moment où ce dernier a de bonnes personnes autour de lui et qu'il sait clairement où il va. Faisant le bilan de sa gestion, M. Obama s'est dit plutôt satisfait, notant que l'économie était sur le point de sombrer dans une dépression quand il a accédé au pouvoir en 2009. Concernant ceux qui s'opposent à Trump, il leur a rappelé que c'est la démocratie qui est ainsi. Le président a quitté Washington hier pour son dernier voyage à l'étranger, avec des escales en Grèce, en Allemagne et au Pérou. Un des messages que je serai en mesure de porter est, a dit M. Obama, l'engagement de M. Trump à l'égard de l'OTAN et de l'Alliance transatlantique. Donald Trump n'a cessé de fustiger pendant la campagne les accords internationaux signés par Barack Obama, notamment celui sur le nucléaire iranien, un bon exemple justement de l'écart entre la rhétorique et la réalité, a dit M. Obama. Il a soutenu que Téhéran respecte l'accord avec les États-Unis et cinq autres puissances mondiales. Dès lors, a poursuivi le président, il serait difficile d'expliquer son abrogation, ajoutant que les États-Unis devront alors prendre des sanctions contre les autres pays qui n'auraient pas, eux, dénoncé cet accord.
Et pour terminer, près de 6 ans après sa révolution, la Tunisie va publiquement donner la parole aux victimes de la dictature, une étape historique de la transition démocratique. C'est avec une dizaine de témoignages retransmis en direct sur plusieurs radios et télévisions jeudi et vendredi que les Tunisiens vont pour la première fois être confrontés à l'étendue des violations commises ces dernières décennies, principalement sous les régimes du père de l'indépendance Habib Bourguiba, 1957-1987, et du président déchu Zine Al-Abidine Ben Ali, 1987-2011. Ces séances organisées par l'instance Vérité et Dignité seront l'occasion pour l'opinion publique de savoir ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi il ne faut pas que ces violations se reproduisent. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.